Amis, bonsoir. Soyez les bienvenus pour la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en parenthèse. Le sujet présenté ce soir est la réalisation du soi. De quoi s'agit-il? Avant de céder la place à la conférence, voici un court extrait tiré d'un article écrit par William Quaintjudge et tiré d'un cahier théosophique, le numéro 117. Le soi est l'ami du soi, mais aussi son ennemi. Souvent, cette phrase de la Bhagavad Gita n'a pas été appréciée à sa juste valeur parce qu'on l'a considérée comme vide de sens ou mystérieuse, c'est-à-dire ne valant pas la peine d'être approfondie ou bien impossible à expliquer. Certains étudiants ont pourtant fait bon usage de l'enseignement qu'elle contient. C'est un verset qui a trait directement à la théosophie appliquée à notre vie quotidienne et qui mérite ainsi d'être examiné attentivement. Il fait état de deux soi, l'un étant l'ennemi, mais aussi l'ami de l'autre. Évidemment, sans les suggestions trouvées dans la théosophie, postuler deux soi dans une même personne ne peut pas paraître autrement que dénué de sens, sauf dans les cas admis par la science, où il y a une aberration de l'intellect, où un lobe du cerveau refuse de travailler avec l'autre, ou bien lorsqu'il y a quelque dérangement cérébral. Mais, après avoir un peu étudié la constitution de l'homme, matérielle et spirituelle, telle que nous la trouvons esquissée dans la religion sagesse, nous pouvons facilement voir que c'est du soi supérieur et du soi inférieur qu'il s'agit. L'injonction qui fait suite et prescrit d'élever le soi par le soi fait ressortir clairement ce point, car puisqu'une chose ne peut pas s'élever sans un point d'appui, le soi qui nous élèvera doit être le soi supérieur et celui qui doit être élevé, l'inférieur. Afin d'accomplir cette tâche, nous devons faire connaissance avec le soi qui doit être élevé. Plus grande et précise sera cette connaissance, plus rapide sera la progression du travail d'élévation de l'être qui s'y efforcera. Voici maintenant la conférence.
Alors, amis, la réalisation du soi, de quoi s'agit-il? Il faut d'abord que nous soyons conscients qu'il y a quelque chose à épanouir en nous. Et pour cela, bien évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que l'homme, d'où il vient, où il va, ses rapports avec l'univers, enfin comprendre la vie. Mais avant de commencer, on voudrait simplement dire qu'on va juste essayer d'approcher le sujet, bien évidemment, parce que chacun d'entre nous, dans son cheminement, pourra l'approfondir et de plus en plus jusqu'à ce qu'il arrive lui-même à la véritable réalisation. Alors, la théosophie montre que tout ce qui constitue l'univers sont en fait des hiérarchies qui sont soit inférieures ou supérieures au règne humain, et que cet ensemble est lancé dans un vaste processus d'évolution. Il faut savoir que nous sommes tous enracinés dans une même source spirituelle centrale qui peut être vue comme un grand feu duquel partent des myriades et des myriades d'étincelles, ou alors comme un soleil avec une multitude de rayons. Et chaque rayon, en fait, est de la nature du soleil. Et on peut dire aussi que chaque rayon possède en lui-même les pouvoirs potentiels, en tout cas, du soleil. Et cette substance primordiale, ce soleil, en fait, il faut savoir que c'est ce qu'on va appeler l'esprit ou l'âme du monde. Et cette substance, elle est absolument partout, dans tout l'espace, mais nous ne la voyons pas avec nos sens physiques, bien évidemment. C'est à partir de cette substance primordiale qui va former une sorte de base, que la matière va se condenser et que les formes vont apparaître sur sept niveaux, sept degrés, en partant du point le plus subtil, donc cette matière primordiale, cet esprit, cette âme du monde pour aller jusque le plan physique sur lequel on est, la matière la plus grossière, et puis retourner à la substance primordiale, mais avec toute l'expérience en plus. C'est ainsi que l'on va voir dans l'univers manifesté plusieurs règnes, donc trois règnes élémentaux que l'on ne voit pas avec nos sens physiques. Après, il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Et au-dessus, il y a des règnes qui sont supérieurs à l'être humain parce qu'ils ont développé plus de pouvoir. Et là, il y a plusieurs degrés. Et on peut constater que, en fait, il faut comprendre que cette étincelle dont on a parlé, qui part à partir de ce grand feu, ou alors ce rayon, eh bien, c'est ce qu'on appelle la monade. Et cette monade, avant de devenir humaine, eh bien, elle aura passé par l'expérience de tous les règnes dits inférieurs. Et c'est ainsi que l'on voit, par exemple, la conscience qui évolue. Par exemple, dans le règne végétal, la plante va se sensibiliser à l'élément extérieur. Par exemple, elle va être sensible au froid, à la chaleur, à la lumière. On voit la fleur qui s'ouvre au soleil, qui va se refermer à la pénombre. Certaines suivent l'orbe solaire. Et dans l'animal, eh bien, l'animal n'est plus rivé au sol. La conscience s'individualise. On voit par exemple des hiérarchies d'animaux qui vivent en communauté, où il y a même des règles qui s'établissent d'une façon instinctive. Et donc il y a une intelligence déjà qui se développe, un mental qui commence aussi à se développer. Mais c'est dans l'homme que l'individualisation devient réellement effective, parce que l'homme est doué de conscience réfléchie. Ça veut dire que l'homme est un penseur et qu'il sait qu'il pense. C'est la grosse différence avec l'animal. Il est capable de s'auto-juger et il est capable de faire des choix conscients. Il a le libre arbitre. Donc ça, c'est une chose très importante. C'est vraiment l'apanage du règne humain. Et si on prend les choses vraiment avec beaucoup de recul, toujours d'un point de vue métaphysique, eh bien on voit qu'à partir de cette substance primordiale, il y a comme une descente de l'esprit dans la matière, c'est-à-dire que les formes vont se déployer, se développer, être capables de manifester de plus en plus les potentialités de l'esprit. Et ce n'est qu'à la moitié d'un grand cycle de vie, et en sachant que ce grand cycle de vie sera divisé en 7 cycles, qu'on va appeler rondes, alors c'est-à-dire à partir de la troisième ronde et demie, que, en fait, la conscience va comme se retourner sur elle-même. C'est le point de la soi-conscience qui est manifestée dans l'homme. C'est le point où la substance devient complètement physique. Hein, c'est le point où nous en sommes. Nous avons même légèrement dépassé ce stade. Et à partir de là, eh bien, la conscience va, pour ainsi dire, va s'imposer sur la matière. En fait, l'être humain que nous sommes, ce rayon qui est devenu conscient de lui-même, qui a un sens d'identité, eh bien, il va élargir sa conscience de soi, de son soi, pour la dilater jusqu'à la lumière du soleil complète, la complète lumière du soleil, qui est simplement le stade juste qui précède le moment où il peut fusionner avec le soleil, c'est-à-dire que le rayon retourne au soleil. C'est ça le grand pèlerinage que nous avons à faire. Mais il faut savoir donc que d'un point de vue métaphysique, nous sommes l'esprit, c'est-à-dire le soleil. Mais pour se connaître l'esprit, il va y avoir à partir du soleil une projection à partir de la substance du soleil, une projection de l'esprit, et qui va donner donc cette multitude de rayons de rayonnement. Mais cette projection, en fait, c'est une illusion. Parce que l'esprit, parce que nous sommes l'esprit, le rayon et le soleil lui-même. Il n'est jamais séparé du soleil. C'est une illusion, tout ça c'est une illusion que nous partageons ensemble et que nous entretenons, mais qui a quand même une réalité tangible. C'est ce qu'on appelle la vérité relative en comparaison de la vérité absolue. Et il faut savoir que c'est le seul moyen que l'esprit a pour apprendre à se connaître. Et dans la philosophie du Samkhya, par exemple, il est parlé de la conscience comme étant infirme et de la matière comme étant aveugle. Il est dit que Purusha, la conscience, monte sur les épaules de Prakriti pour la guider. Ça veut dire que la conscience, en fait, elle n'a aucun pouvoir si elle est toute seule. Elle a besoin de matière pour se manifester, pour manifester ses pouvoirs. Et la matière toute seule, eh bien, elle est aveugle. Elle a besoin de la conscience pour être guidée. Donc, il faut bien qu'on essaye de comprendre ça, parce que là, on a pris beaucoup, beaucoup de recul. Maintenant, on va revenir au niveau du rayon. Donc, on a dit que nous sommes une projection de ce soleil, un rayon qui apprend à se connaître. Et ce rayon, on a bien compris que, au point où on en est, eh bien, on a acquis ce qu'on appelle un sens d'identité propre. C'est le « je suis moi-même ». Depuis qu'on est enfant, c'est toujours le même « je suis moi-même », et c'est le « je suis moi-même » qui va perdurer d'incarnation en incarnation. Mais, ponctuellement, eh bien, ce « je suis moi-même », ce rayon, va s'habiller d'un costume, c'est-à-dire qu'il va prendre un corps physique, il va jouer un rôle, c'est-à-dire qu'il va avoir une personnalité qui sera effectivement l'héritière de toutes les personnalités qui l'ont précédé, parce qu'on a développé certaines tendances, on va les développer dans un certain sens, on va finalement les spiritualiser jusqu'au point le plus parfait, pour arriver, revenir au soleil. Donc, en fait, on a cette personnalité, mais le problème, c'est que dans le monde où nous vivons, cette personnalité, elle est complètement prise dans l'illusion de la séparativité. Ça veut dire qu'elle va croître en égoïsme et en égotisme, au lieu de grandir dans le sens de sa nature transcendante, en réalisant l'unité. En fait, avec la loi de karma, eh bien, comme on récolte ce que l'on sème, comme on a créé une multitude d'attachements, eh bien, finalement, on va récolter des tas de choses qui sont le résultat même de toutes les causes qu'on a semées, mais qui sont des attachements à cette nature transitoire, à tous les délices que peut nous apporter le monde physique. Et finalement, eh bien, on va tourner dans une cage d'écureuil, au lieu d'avancer vraiment dans le sens de la réalisation. Alors, en fait, donc, on comprend bien que dans notre nature permanente, nous sommes ce foyer de conscience individualisée, et dans notre nature impermanente, transitoire, nous sommes le personnage que nous jouons actuellement sur la scène du monde, avec ce corps, nous sommes femmes ou hommes, voilà. Et en fait, notre conscience, c'est-à-dire ce qui en nous perçoit les choses, ce qui en nous s'est identifié à ce que nous percevons, à ce que nous croyons que nous sommes, eh bien en fait, il est focalisé sur ce niveau, simplement. Et donc, notre soi, il est à ce niveau. Ce qui veut dire que le soi, eh bien, il est descendu d'étage en étage, il a perdu sa lucidité, il a perdu sa luminosité et il est enfermé dans ce petit moi séparé qui voit pas plus loin finalement que le bout de son nez, on pourrait dire. Et si on regarde la conscience, en fait la conscience, elle a un horizon beaucoup plus vaste. Parce que, par exemple, aujourd'hui, quand nous sommes occupés à écouter quelque chose, à regarder quelque chose avec nos sens physiques, eh bien, notre conscience est focalisée sur le plan physique. Si, par exemple, nous sommes en train de rêvasser, en étant un peu dans un état de passivité, eh bien nous sommes sur le plan astral. Si par exemple nous sommes en train de réfléchir mais volontairement à quelque chose, délibérément, bien là, bien présent, eh bien nous sommes sur le plan mental. Mais sur le plan mental, on peut être occupé à réfléchir à quelque chose qui a un rapport avec le monde physique, le monde des sens, ou le psychisme en rapport avec le monde des sens. Et donc nous sommes dans le mental inférieur. Et si par exemple nous sommes toujours bien en train de réfléchir, délibérément, volontairement, bien là, mais que nous réfléchissons à quelque chose avec l'idée du beau, du bien, du grand, de l'amour, à ce moment-là, nous sommes sur le plan mental, mais focalisés sur le supérieur. Et si, par exemple, nous étions capables de ressentir l'unité tous les liens qui nous unissent les uns aux autres et les liens qui nous unissent à notre nature transcendante, si nous étions capables de voir les choses au-delà des phénomènes, voir les causes réelles qui ont fait que les choses sont comme ci ou comme ça, eh bien nous serions sur le plan spirituel. Et au-delà, eh bien c'est le plan du soleil, c'est le plan divin. Donc tout ça pour dire que nous avons un pèlerinage à entreprendre. Mais le problème, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons le libre arbitre. Et avec ce libre arbitre, eh bien, soit on peut aller dans le sens de l'évolution, soit on peut vraiment nager à contre-courant. Et c'est ce que nous faisons trop souvent, bien évidemment. Et donc, il va falloir donc décider de bien vouloir entreprendre ce pèlerinage. Et ça va se faire uniquement par des efforts auto-induits et auto-déterminés. C'est-à-dire que ce n'est pas une autorité extérieure qui va nous dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Maintenant, c'est plus valable ça, parce que nous sommes trop évolués et nous avons en fait besoin de nous diriger nous-mêmes en comprenant les choses. Et nous avons tout pour ça. On est assez intelligent, on a le pouvoir de discernement, il faut qu'on essaye d'en faire usage. Donc, il faut essayer de comprendre les choses, avoir une vision différente des choses, essayer de voir si c'est juste. Et à partir du moment où on voit, on comprend les choses, on comprend le monde avec un certain regard, une certaine profondeur, eh bien il y a quelque chose en nous qui va nous pousser à avancer dans le sens de l'évolution. Parce que si on comprend qu'on est tous liés les uns aux autres, si on comprend que la fraternité est un fait de la nature, eh bien on ne pourra plus faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. On va changer, on sera moins égoïste, on va commencer à se prendre en main. Et c'est ce qu'il faut. Et en fait, au stade où nous sommes, eh bien on est tous des Arjuna. Arjuna, rappelons-le, c'est le héros dans la Bhagavad Gita, c'est l'homme qui s'est levé. Mais cet homme est accompagné de Krishna. Et Krishna représente l'instructeur spirituel, celui qui est allé jusqu'au bout de la voie, mais qui ne s'est pas fondu dans le soleil. Il est revenu de l'autre rive pour aider celui qui a besoin d'être aidé, pour aider tous les Arjunas qui sont sur la terre. Et donc, tous ces êtres qui sont allés donc jusqu'au bout de la voie et qui sont revenus, eh bien, ils nous ont laissé un héritage, ils nous ont laissé des livres, et pas énormément, parce que ça va être ce qu'on appelle des livres initiatiques, comme par exemple la Bhagavad Gita, la lumière sur le sentier, la voie du silence, et il y en a d'autres, ça c'est évident. Mais enfin, c'est cela plutôt ce qu'on étudie ici, nous les théosophes. Donc, on va se servir de la voie du silence. Et dans la voie du silence, il est dit « Le soi de matière et le soi de l'esprit ne peuvent jamais se rencontrer. L'un des deux doit disparaître. Il n'y a pas de place pour les deux. » Et on comprend, parce que le soi de matière, c'est le petit soi qui se sent séparé des autres, qui a envie de jouir des choses pour lui-même, qui ne fait pas attention aux besoins des autres. Tandis que le soi de l'esprit, c'est celui qui vit l'unité, vraiment qui sent l'unité de la vie partout, même dans les règnes inférieurs, il se sent en union avec ces règnes-là. Il n'y a qu'une unité et il la vit au quotidien, donc il y a un fossé immense entre les deux. Mais ce fossé peut être comblé. Donc c'est ça la bonne nouvelle en tout cas. Et donc il va falloir, comme on l'a dit tout à l'heure, reconquérir ce royaume perdu, précisément en faisant tomber toutes les barrières de la séparativité, en libérant vraiment notre pouvoir d'amour, en libérant tous les pouvoirs que nous avons en nous et qui sont disponibles pour se sentir, essayer de vivre cette unité, essayer de vivre la fraternité comme on devrait le vivre, et c'est comme ça que petit à petit on avancera donc dans cette voie. Mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, donc nous sommes ce centre individualisé de conscience, c'est pas monsieur X ou madame Y, bien évidemment, et en fait on a bien compris que au départ nous sommes un je suis qui ne se connaît pas, on construit un moi-même. Et ensuite, il va falloir donc devenir carrément ce soleil, c'est-à-dire renoncer à ce petit moi égoïste, étriqué, donc élargir les barrières pour finalement arriver un jour à se fondre dans le soleil. Ça, c'est vraiment toute la voie. Mais la voie du silence nous dit, avant de devenir le connaisseur de tout soi, c'est-à-dire que c'est la lumière totale du soleil, c'est juste avant la fusion avec le soleil. La lumière totale du soleil représente tous les rayons, donc tout soi, les tout soi. Avant de devenir le connaisseur du tout soi, tu dois d'abord du soi être le connaisseur. Et on se souvient que sur le fronton du temple de Delphes, il était écrit « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors les dieux, on oublie la notion du dieu anthropomorphique, du dieu du monothéisme. Là, les dieux, ça fait référence à la personnification de toutes les forces qui sont à l'œuvre dans la nature et dans l'homme lui-même. Donc, il faudra apprendre à connaître tous les constituants de notre nature avec toutes les forces qui opèrent dans cette nature et qui ont d'ailleurs une relation avec l'univers. Parce que l'homme est le microcosme du macrocosme. Et toute la voie, finalement, ce sera d'intégrer le microcosme dans le macrocosme. Et là, il nous est dit ensuite, après, donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment prendre connaissance des choses, et en étant connaissant, petit à petit, arriver à une maîtrise de tous nos instruments. Et dans la voie du silence, il est dit quelque chose de fondamental qui est vraiment une clé, enfin nous dirions même presque une clé de voûte, tellement c'est important. Et il est dit, connais-tu les pouvoirs du soi, ô toi qui perçois les ombres extérieures? Alors les ombres extérieures, c'est le monde phénoménal dans lequel on est. On voit que les ombres, on ne voit pas la réalité en fait. Et donc, connais-tu les pouvoirs du soi, ô toi qui perçois les ondes extérieures? Si tu ne les connais pas, en vérité, tu es perdu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, dans ce cas-là, le soi dont il est question, eh bien, c'est ce petit soi. Ce petit soi qui, en fait, tout au long de ce grand pèlerinage que l'on a commencé il y a très très longtemps, dès l'aube de l'humanité, en fait, il faut savoir qu'il s'est construit un espèce de noyau dur, une sorte d'alter ego par rapport à ce rayon que nous sommes en profondeur, une sorte d'alter ego qui a grandi en puissance, en pouvoir, qui, parce qu'il a tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs du soleil, mais il les utilise pour un moi personnel, séparé, et donc il est extrêmement dangereux. Il est rusé, perfide, difficile à débusquer et encore plus difficile à abattre. Ce sera le dernier combattant qu'il faudra combattre. Et en fait, Arjuna, notre héros de la Bhagavad Gita, eh bien lui, il va réussir. Il va réussir parce qu'il est allié avec Krishna qui représente la nature supérieure. Et pour combattre cet ennemi, protéen, on va dire, eh bien, il faudra vraiment faire alliance avec notre nature supérieure, avoir son discernement, le discernement à ce niveau, et la force aussi pour aller jusqu'au bout. parce qu'il sera toujours présent jusqu'à la dernière minute de la grande transformation. Donc c'est quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître et qu'il faut savoir, parce qu'un homme averti en vaut deux. Et quand on est averti, eh bien on peut se tenir sur nos gardes. Donc là on comprend avec ça, on a vu un petit peu ce qu'il fallait faire au niveau du pèlerinage, on comprend maintenant qu'on a les moyens d'y arriver, et un ascète qui, par tout son passé karmique, arrive à une certaine maturité, parce qu'il s'est engagé depuis longtemps à suivre cette voie, eh bien cet ascète va forcément trouver des aides, et il va trouver ses livres dont on a parlé, ses livres initiatiques. Et par exemple, dans la voie du silence, il est écrit pour lui « Restreins ton soi inférieur par le soi divin. Restreins le soi divin par l'éternel. En vérité, il est grand celui qui est le meurtrier du désir. Il est encore plus grand celui en qui le soi divin a tué jusqu'à la connaissance du désir. » C'est-à-dire qu'on voit que la voie, finalement, elle va passer par le fait qu'il va falloir renoncer à tous les désirs que notre nature inférieure a pour telle ou telle chose, donc c'est vraiment une grande voie de transformation, mais que grâce à cet ancrage dans la nature divine, grâce à cette aide, eh bien il y a un moment donné où on n'aura même plus la connaissance de ce désir inférieur. Le seul désir qui se manifestera, parce que le désir est un principe, et donc il ne peut pas mourir, eh bien, ce désir, ce sera celui de s'unir avec le soleil. Donc, cet ascète qui va arriver donc à avancer sur le sentier et qui va arriver à des renoncements dont peut-être on a du mal à imaginer, eh bien, par une ascèse vraiment volontaire qui est maintenue de vie en vie et qui est vraiment très... comment dire, sans échappatoire, une ascèse qui s'impose de renoncement, il va s'isoler, isoler son âme, il va s'isoler lui-même d'ailleurs. Eh bien, par une méditation de tous les instants, sans jamais s'interrompre, quoi qu'il fasse, il sera toujours ancré dans sa nature supérieure, en essayant de se fondre à sa nature suprême, eh bien, cet ascète, eh bien, pourra y arriver. On comprend que cette voie est possible. Et dans la Bhagavad Gita, le Krishna, l'instructeur, dit à Arjuna qu'effectivement, cette voie qui est très difficile, très ardue, eh bien, elle est possible. Et donc, cet ascète, s'il continue dans cette voie, eh bien, par son renoncement total, par le désir qui est complètement transmué pour vouloir s'unir au soleil, eh bien il va arriver à cette grande réalisation. Mais dans la voie du silence, il est dit aussi: arrête-toi, disciple, encore un mot, peux-tu détruire la divine compassion? La compassion n'est pas un attribut, c'est la loi des lois, l'harmonie éternelle, le soi d'Alaya, essence universelle et sans rivage. C'est la lumière de l'immuable justice et de l'harmonieuse disposition de chaque chose dans le tout, la loi de l'éternel amour. Et elle ajoutera: la compassion par les vies. Peut-il y avoir béatitude quand tout ce qui vit doit souffrir? Seras-tu sauvé et entendras-tu le monde entier gémir? Alors, amis, pour cet ascète, toute la nature et tous les êtres qui l'ont accompagné dans cette voie, des vies durant, ses parents, sa famille, tous ses amis, tous ceux qui ont participé à d'une façon directe ou indirecte à son éveil, est-ce qu'ils seront laissés à leur propre sort? Et est-ce qu'il n'entendra pas la voix de la nature gémir pour tous ceux qui cherchent dans les ténèbres leur sentier? Et pour tous ceux, par exemple, qui ne savent même pas qu'il existe une voie d'émancipation à la douleur et qui sont pris dans les désirs multiformes entre la peine, la joie, est-ce qu'il va les laisser comme ça? Est-ce qu'il ne va pas essayer de les aider? Ça, c'est une grande question pour cet ascète. La voix du silence dit toujours, celui qui devient Pratyeka Buddha ne fait sa soumission qu'à son soi. Le bodhisattva qui a gagné la bataille, qui tient le prix dans la paume de sa main et dit cependant, dans sa divine compassion, pour l'amour d'autrui, j'abandonne cette grande récompense, accomplit le plus grand renoncement. Alors évidemment, la réalisation du soi, oui, bien sûr, c'est la voie que nous indiquons, c'est la voie qu'il faut parcourir, mais en cultivant le désir d'aider l'humanité, en cultivant le désir de servir, de participer à la rotation du monde, cet ascète qui va obtenir toute la lumière, c'est-à-dire qu'il devient omniscient, il a la capacité de tout comprendre, de tout savoir. Est-ce qu'il ne va pas en faire profiter aux autres ? Celui qui est capable d'absorber cette connaissance et qui ne la redonne pas à un autre lit, eh bien devient comme un marais stagnant, nous dit la voix du silence toujours. Donc, le devoir de celui qui arrive à un tel éveil, c'est bien évidemment de redonner cette connaissance, d'essayer d'aider tous ces êtres qui sont derrière lui sur le chemin. Alors, la voie de la compassion, c'est aussi une voie directissime. Mais c'est une voie qui est beaucoup plus facile que la voie du Bouddha égoïste. Parce qu'elle est balisée. Elle est balisée par tous ceux qui sont déjà allés jusqu'au bout et qui sont revenus pour montrer les embûches, pour montrer les problèmes qui peuvent se manifester ici ou là pour celui qui voudrait s'engager dans ce chemin. Et en fait, cette voie, c'est la voie qui nous... En fait, c'est la voie qui nous amène à élever, comme il a été dit dans la lecture tout à l'heure, à élever le petit soi vers le grand soi. C'est la voie qui nous amène donc à changer de polarité. Et il faut savoir qu'un être qui entre dans cette voie et qui a envie de servir ses frères, eh bien, elle rencontrera forcément à un moment donné de son évolution, quand le moment sera mûr, eh bien, il rencontrera forcément le maître qui deviendra finalement son initiateur, celui qui va lui montrer vraiment la voie et les embûches. Et c'est celui qui l'accompagnera jusqu'au bout du chemin et qui l'aidera chaque fois que cela est nécessaire. Et donc, la grande différence entre cette voie de compassion et la voie égoïste, il faut savoir que la voie égoïste du Pratyeka Buddha, en fait, c'est une voie de la science du renoncement par la pratique du yoga. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'œil, c'est la doctrine de l'œil ou la science de tête, en opposition avec la sagesse de l'âme et la doctrine du cœur. Et la voie du Bouddha de compassion, en plus d'être aussi une voie de renoncement, mais on l'a bien dit, pas un renoncement au lien de la fraternité, au lien de la solidarité, mais un renoncement au despotisme de la personnalité. Et donc cette voie, en plus d'être vraiment une voie qui nous amène à nous libérer, eh bien, c'est une voie qui va nous ancrer le mental dans le soi, on va dire le soi suprême, mais le soi de tous. Et à partir de là, l'être va vraiment s'engager dans son... C'est-à-dire qu'il va ressentir un appel, c'est son dharma qui va devenir de plus en plus universel, son devoir, et ça va l'amener à devenir un être qui va essayer d'aider les autres. Et en fait, c'est la voie qui amène à entrer dans le monde, travailler dans le monde, sans être vraiment du monde. C'est la voie qui est dans le bouddhisme du Mahayana, c'est la voie qui amène à la réalisation des 6 ou 10 paramitas, c'est-à-dire les vertus transcendantes. Et donc, c'est cette voie-là que prennent les bodhisattvas. Et c'est cette voie-là, bien évidemment, que la théosophie montre. C'est cette voie-là que les maîtres qui sont derrière nous ont indiqué. Et donc, c'est cette voie-là qu'on essaye d'indiquer, donc, de montrer qu'elle existe pour tous ceux qui veulent vraiment s'engager dans une voie spirituelle. Alors, les vertus dont on a parlé, ce sont des vertus qui vont permettre à l'ascète d'atteindre l'autre rive, mais tout en étant capable de se réincarner sur la terre si le besoin est, ou de rester dans l'atmosphère de cette terre. Parce que la voie du pratyeka bouddha, il ne faut pas oublier que c'est une voie de libération totale qui libère de tous les liens, qui libère de la terre, mais qui libère aussi bien évidemment du psychisme délétère de la terre, mais aussi de l'aspect spirituel de la terre. Et une fois que ce pratyeka bouddha s'unit au soleil, c'est-à-dire entre en nirvana, eh bien il ne sera plus du tout capable de revenir pour aider les autres. Alors, pour ces bouddhas de compassion, pour ces bodhisattvas, en fait, on a parlé des 6 vertus. Alors, 6 ou 10 vertus. Alors, les 6 vertus sont dana, la charité, l'immortel amour, le don de soi, le don sous toutes ses formes d'ailleurs, et surtout le don de soi, la capacité de se donner pour essayer de travailler dans cette humanité, pour essayer de participer à l'éveil de tous les êtres. Shila, la conduite morale qui inclut pensée, parole et action, c'est-à-dire que l'ascète qui va grandir dans sa compréhension des choses, son éthique va s'affiner et toutes ses actions seront en harmonie avec son éthique. Toutes ses actions, que ce soit les paroles, les pensées, les actions, tout sera sur la même tonalité. Ensuite, Kshanti, la douce patience que rien ne peut troubler, qui fait supporter tout ce qui peut nous arriver, le beau, le bien, le mal, peu importe, tous les tracas de la vie, même ce qui nous paraît injustice, et pourtant rien n'est injuste, puisqu'avec la loi de karma, on sait que tout a une cause, et si on doit vivre certaines situations, eh bien c'est qu'il y a des causes qui font qu'on doit vivre ces situations, parce qu'il y aura toujours des leçons à tirer à partir de là. Ensuite, Virya, l'énergie indomptable qui ferait sa route vers la suprême vérité et qui fait que l'ascète pourra tomber, il y aura des échecs, mais chaque fois il va se relever et chaque fois il sera un peu plus fort quand il recommencera à avancer. Ensuite, Dhyana, l'état de méditation parfaite, la profonde contemplation spirituelle sur des plans de plus en plus profonds de la nature, tout en gardant la conscience d'un soi individuel, propre. Ensuite, Prajna, c'est le niveau de plus haut de la sagesse parfaite, où l'être réalise la vacuité de ce qui semble plein et la plénitude de ce qui semble vide, ce qui veut dire qu'il est capable d'aller au-delà des phénomènes, hein, de voir les choses qui sont et non pas seulement les apparences. Et à ce niveau-là, eh bien, il devient un bodhisattva. Et Madame Blavatsky, dans La Voix du Silence, elle nous parle précisément donc de ces 6 paramitas qu'elle appelle des clés, des portails, pardon, et aussi des clés, parce que pour ouvrir les portails, il faut une clé. Et là, il faut savoir qu'elle va rajouter une 7e paramita, ou vertu transcendante, qu'elle va placer entre les 3 premières et les 3 dernières. Et c'est Viragya ou Vairagya, qui est la même chose. Et donc ça, c'est le détachement, l'absence de passion, c'est-à-dire l'indifférence pour tout intérêt personnel. Et c'est à ce prix que l'illusion peut être vaincue et que la vérité peut être saisie. Parce que le mental tant qu'il est pris dans l'inférieur, il ne pourra jamais se poser sur le supérieur. Mais à partir du moment où il s'en est détaché, il pourra se fixer sur le supérieur. Et c'est là qu'il pourra finalement remonter pour arriver à la suprême vérité. Donc, en fait, cette voie, eh bien, on en parle aussi dans d'autres traditions. Et il y a un symbole qui en parle très bien, c'est le symbole de la crucifixion. Là, on comprend que le moi personnel est vraiment, abattu, mais ce n'est pas vraiment le terme. En fait, il est passé au laminoir, il est complètement transformé, transmué, complètement, et l'être, ainsi, va arriver à une sorte de deuxième naissance, hein, la naissance spirituelle, où il gagne l'immortalité de conscience. Et à partir de ce moment, eh bien, c'est là qu'il s'engage vraiment dans la voie du Bodhisattva pour aider ses frères. Et tout en s'engageant dans cette voie, eh bien, il va continuer à se perfectionner parce que la perfection n'est jamais atteinte. Elle peut aller toujours plus loin, mais jamais atteinte. Et il faut savoir que ensuite, il y a donc, puisqu'on avait parlé de 6 et 10 paramitas, il y a aussi les 4 autres paramitas. Et les 4 autres paramitas sont Upaya Kosala, c'est-à-dire les moyens habiles dans la propagation de la sagesse. C'est la capacité de comprendre les causes de tous les problèmes et en même temps la capacité de comprendre quels sont les remèdes à appliquer pour tel ou tel individu. Donc c'est une capacité, vraiment c'est l'art de savoir guérir les gens, hein, au niveau spirituel, guérir l'âme bien évidemment. Ensuite, le deuxième c'est Pranidhana, c'est le vœu irrévocable d'atteindre l'éveil et d'entraîner tous les êtres vers ce but. Ensuite, c'est Bala, les pouvoirs au nombre de 10, permettant de voir clair en toute situation et de progresser dans la voie de la purification de l'éveil. Et ensuite, Jnana, la connaissance exacte des choses. Alors, pour conclure, on va juste citer le serment de Kuan Yin, donc c'est la deuxième des 4 dernières paramitas, qui est Pranidhana, donc le vœu irrévocable d'atteindre l'éveil et d'entraîner toutes les créatures. Alors c'est « Jamais je ne chercherai ni ne recevrai le salut privé individuel. Jamais je n'entrerai seul dans la paix finale. Mais toujours et partout, je vivrai et lutterai pour la rédemption de chaque créature à travers le monde. » Voilà, amis.